Le journal Loïc Barrière. Charles III officiellement proclamé roi 2 jours après le décès de la reine Elisabeth. Pas de progrès dans les discussions sur le nucléaire iranien. Londres, Berlin et Paris expriment leurs doutes sur l'engagement de Téhéran. Lors de la fête de l'humanité, un rassemblement a été organisé pour exiger la libération de Salah Hamouri. Entretien avec l'épouse de l'avocat franco-palestinien Elsa Lefort. Enfin, nous écouterons la coordinatrice du festival arabe de Famec, Majouba Galfout. Elle reviendra sur l'origine de cette manifestation culturelle située dans l'est de la France. La 33e édition commencera le 6 octobre. Une cérémonie ce matin au palais Saint-James pour officialiser l'accession au trône du roi Charles III. La cérémonie a été retransmise pour la première fois à la télévision. Les 200 membres du conseil d'accession l'ont officiellement déclaré roi. « Je prie pour que Dieu me guide », a notamment déclaré le roi. Avant de prêter serment, hier Charles III s'était adressé aux Britanniques en rendant hommage à sa mère, la reine Elisabeth II, dont le cercueil doit quitter le château de Balmoral pour Édimbourg. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni expriment de sérieux doutes sur l'engagement de l'Iran à parvenir à un résultat positif dans les négociations pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Ces trois pays estiment que Téhéran poursuit l'escalade de son programme nucléaire bien au-delà de ce qui pourrait être justifié pour des raisons civiles. Berlin, Paris et Londres demandent à nouveau à l'Iran de coopérer avec l'Agence internationale pour l'énergie atomique. La mobilisation de la société française n'est pas à la hauteur, un regret formulé par l'épouse de Salah Hamouri. L'avocat franco-palestinien, âgé de 37 ans, est emprisonné par Israël sans procès ni inculpation depuis le mois de mars. Sa détention administrative a été prolongée de 3 mois la semaine dernière. Un rassemblement a eu lieu ce matin à la fête de l'humanité pour exiger la libération de Salah Hamouri. Entretien avec son épouse Elsa Lefort.
Mon mari effectivement est en détention administrative en Israël depuis le 7 mars, c'est-à-dire qu'il est détenu sans charge ni jugement. Au début, la peine était de 3 mois, puis elle a été prolongée de 3 mois. Et ce dimanche, elle a une nouvelle fois été prolongée de 3 mois, donc jusqu'au 4 décembre 2022 pour le moment, puisque malheureusement, elle peut encore être prolongée une ou plusieurs fois. Il est détenu dans la prison haute sécurité de Hadarim, puisque il est classé détenu dangereux depuis que il a osé adresser une lettre au président de la République française, Emmanuel Macron, à l'occasion du 14 juillet, dans laquelle il lui expliquait qu'il se sentait être un citoyen de seconde zone et qu'il attendait de son président de le défendre pour qu'il retrouve sa liberté et également la liberté de vivre dans sa ville natale qui est Jérusalem.
Et le ministère français des Affaires étrangères assure que la situation de Salah Hamouri fait et continuera de faire l'objet d'un suivi attentif. Comment accueillez-vous cette déclaration ?
J'ai lu effectivement la déclaration du Quai d'Orsay. Il dit ça, il dit également que le ministère des Affaires étrangères est pleinement mobilisé sur la situation de Salah Hamouri et que il veille à lui apporter toute l'assistance possible. Alors c'est un peu ce serait magnifique si c'était le cas. Maintenant, nous, en tant que famille, on fait des demandes au MAE et on n'a pas de réponse, ne serait-ce que des demandes d'information.
Le ministère des Affaires étrangères.
Oui, donc on n'a pas de réponse de leur part et on a également fait une demande depuis le début de l'incarcération de mon mari, qui est une demande humanitaire de pouvoir, pour moi-même et nos deux jeunes enfants, pouvoir au moins avoir le droit à des appels téléphoniques, puisque là, ça fait 6 mois que ni moi ni mes enfants n'avons eu le droit de parler à mon mari. Je suis moi-même interdite d'entrer sur le territoire israélien, donc je ne peux pas aller aux visites au parloir. Il a le droit à une visite mensuelle au parloir. Donc nous, on a fait notamment cette demande, bien sûr, notre demande première, c'est sa libération immédiate, mais dans l'attente de négociations qui pourraient que le ministère prétend avoir enclenché et mené, nous on a cette demande humaine qui est même pas satisfaite. Donc on a des doutes en fait. Enfin, ils assurent être mobilisés, mais ça fait déjà 6 mois qu'un Français est détenu sans motif. Voilà, le 22 août, Emmanuel Macron lui-même, il s'est retranscrit sur le site de l'Élysée, a téléphoné au Premier ministre israélien Yair Lapid, et il s'est enquis de la situation de Salah Hamouri. Suite à ça, 2 semaines après, quelle est la réponse d'Israël? De renouveler la peine et de maintenir en détention ce Français. Donc, les mots, les communiqués sont toujours très pesés, très mesurés. Nous, en tant que famille, on n'a pas plus d'informations que ces communiqués-là. Et force est de constater par les actes d'Israël que la mobilisation de la diplomatie française n'est pas à la hauteur, puisque Salah est toujours en prison, sans motif, et que on a même pas le minimum de ces droits qui sont respectés. Donc voilà, on accueille ce communiqué avec comment dire, lassitude, je vais dire, parce que nous on les sollicite beaucoup, on aimerait ne pas avoir à le faire, et en fait on a très peu de réponses, voire pas du tout, et en fait on a surtout le constat que mon mari est toujours détenu actuellement et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sera libéré, puisque le 4 décembre prochain, eh bien Israël peut une nouvelle fois prolonger la détention sans avoir à fournir aucun motif. Donc voilà, on n'est pas convaincu par ce communiqué.
Que vous qualifiez de mesuré, comment l'expliquez-vous?
C'est l'histoire des relations entre la France et Israël. Israël pousse toujours les limites de l'acceptable. Je parle pas que de Salah, je parle de colonisation, de détention, mais pas que concernant mon mari, d'assassinat, y compris l'assassinat de journalistes, etc. Et la France est toujours mesurée, et non seulement elle est mesurée dans ses communiqués, mais en plus ça ne dépasse jamais l'étape du communiqué. Il n'y a jamais de sanctions, comme on peut le voir concernant d'autres pays qui occupent et qui envahissent et qui mènent des guerres. Eux, ils ont le droit à tout un lot de sanctions diplomatiques. Et quand ça touche à Israël, mais bon, ça ne concerne malheureusement pas que la France, l'Occident ne déploie pas cette batterie de fonctions, et juste un communiqué par-ci par-là, et puis voilà, mais ça suffit pas en fait, puisque Israël, dans son projet colonial, a bien prévu de dépasser toutes les limites. Maintenant, si la communauté internationale ne fait que des communiqués timides, on s'en sortira jamais. Il y aura jamais de. Israël n'arrêtera jamais si Israël n'est pas confronté à des sanctions et à la justice.
Elsa Lefort, l'épouse de l'avocat Salah Hamouri, au micro de François-Xavier de Calonne. Le monde paie un prix horrible pour sa dépendance aux énergies fossiles. Déclaration du secrétaire général de l'ONU, des propos tenus par Antonio Guterres lors de sa visite au Pakistan, dévasté par des inondations depuis Islamabad. Je lance un appel mondial, arrêtez cette folie, investissez dès maintenant dans les énergies renouvelables, mettez fin à la guerre contre la nature, a ajouté le secrétaire général de l'ONU. En France, 38 personnes en situation irrégulière retrouvées saines et sauves hier par la gendarmerie à l'arrière d'un véhicule utilitaire d'origine indo-pakistanaise. Ces personnes venaient d'Italie et devaient se rendre au Portugal. Ces personnes ont été interceptées en Isère. Le festival du film arabe de Famec aura lieu dans un mois, du 6 au 16 octobre. Un festival créé en 1989 dans cette ville de l'Est de la France qui a des liens anciens avec le monde arabe. On écoute la coordinatrice du festival, Majouba Galfout.
Famec est situé à 30 km de Metz et à 30 km de la frontière du Luxembourg. Donc c'est une ville mosellane, une ville assez particulière puisqu'on est sur le territoire qui était connu surtout pour, on va dire, la période sidérurgique, donc qui a connu toute la grande époque des grandes usines autour de la sidérurgie et donc qui a connu un fort accueil des immigrations, hein, de différentes immigrations de différentes nationalités. Et donc le festival, bah, il est né de tout ça, de cette émulsion de ce territoire qui côtoie nombre de personnes et de familles, puisqu'on est dans un quartier populaire, dans un centre social qui est porté par une association des habitants du quartier et qui, depuis 33 ans, met en avant en fait la culture arabe à travers le cinéma. Donc il a été créé en 1989 précisément, cette première édition, où en fait des jeunes du quartier qui revenaient de vacances pendant la période estivale revenaient sous le bras avec des cassettes VHS et qui avaient envie de projeter des films qu'ils avaient vus pendant leurs vacances dans leur pays d'origine. Donc c'est parti de là, c'est-à-dire des projections un peu en interne dans ce centre social. Et tout doucement, en fait, le festival a pris forme et deux associations, une association s'est mobilisée qui est spécialisée dans tout ce qui est l'exploitation cinématographique, gère des salles de cinéma, des points de circuit itinérants, des projets autour de l'éducation à l'image, a participé sur la deuxième édition et depuis, ben voilà, le festival a pris forme, s'est agrandi, a développé des partenariats et depuis 30 ans est un des festivals qui représente la cinématographie, on va dire émergente des différents pays du monde arabe.
Alors ces deux dernières années, vous avez évidemment été soumis, comme tous les autres festivals, à la crise sanitaire. C'est un peu une vraie reprise pour vous en ce mois d'octobre ?
Oui, c'est vrai, parce qu'on a dû proposer des formules restreintes, réduites, par rapport à 2019, qui était les 30 ans du festival, où là, vraiment, c'était l'anniversaire. Donc on avait vraiment une très très belle programmation avec des animations pendant ces 12 jours. Et là, on a dû restreindre sur 5 jours, les salles étaient restreintes, la jauge. Donc là, oui, on est content parce qu'on est moins stressé, on va dire. On a beaucoup de films, on retrouve un peu la dynamique qu'on avait sur ces dernières années avant Covid. Donc ça fait du bien, mais en même temps, ça nous donne un nouveau challenge parce que le Covid est passé par là. Le public, on en a moins dans les salles, mais ça, c'est au niveau national. Et y a une répercussion sur les festivals. Donc, on redouble d'efforts pour pouvoir retrouver la dynamique qu'on avait laissée.
Alors, vous pouvez nous parler des pays invités, du jury également ?
Oui, alors chaque année, on a un pays invité. Donc, cette année, c'est l'Algérie. Alors, pourquoi ? Parce que le contexte, on est sur l'anniversaire des 60 ans hein, de l'indépendance de l'Algérie. Donc, c'est pour cela que on a choisi ce pays, mais au-delà de ça, on remarque à la suite de nos nombreux visionnements avec notre équipe de programmation, des films qui ressortent, qu'on a pu retenir et qui traitent de l'Algérie, mais sur différentes thématiques. Donc à peu près, on aura une dizaine de films autour de l'Algérie, autour du lien entre la France, l'Algérie, de différentes thématiques sociales, politiques, culturelles qui seront exploitées à travers des longs, des courts-métrages, mais également en termes de fiction et de documentaires. Alors l'idée, c'est d'avoir la plus grande diversité de films, de productions en fait des pays du monde arabe, une diversité dans les thématiques, mais également dans les mises en scène et dans les écritures. On recherche des films qui sortent du lot, on est sur du cinéma d'auteur, mais pas seulement. Il y a une ligne aussi un peu directrice, c'est les jeunes réalisateurs hein, qu'on met aussi en avant. Donc tout ça, c'est un certain nombre de critères qui nous permet de constituer notre programmation 2022.
Avec évidemment des rencontres avec le public, des rencontres très appréciées puisque le contact est direct.
Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment notre point fort et celui qu'on revendique, c'est-à-dire que le festival devient un lieu d'expression, d'échange, un lieu de convivialité qu'on défend. C'est-à-dire la proximité est pour nous très importante, c'est-à-dire que un réalisateur, un professionnel qu'on accueille sur notre festival pourra prendre le temps de discuter avec le public après la projection, mais pas seulement, autour d'un verre de thé, pendant le repas. Donc ça, on aménage les différents espaces qui sont ouverts, autant aux cinéphiles qui sont vraiment présents pendant le festival, mais également aux habitants du quartier. Donc il y a des animations dans le quartier, dans les salles de cinéma. Et donc cette idée de proximité et de créer du lien social en fait, hein, et du vivre ensemble pendant le festival et autour du cinéma, ce sont des éléments qu'on défend déjà tout au long de l'année et qu'on défend surtout et qu'on essaye de mettre en valeur pendant ces 12 jours d'événements.
Et c'est un moment de convivialité qui peut attirer aussi des personnes qui ne vivent pas dans votre ville de Famec, mais qui viennent des alentours aussi.
Tout à fait, oui. Alors quand on parle d'un public fidèle, eh ben c'est un public qui vient de vraiment des alentours. Donc comme on est frontalier au Luxembourg, à l'Allemagne, eh ben nous avons des Luxembourgeois, des Allemands qui viennent sur le festival, et puis des personnes qui viennent des grandes villes environnantes, donc de Nancy, de Metz, de Thionville, et qui viennent sur 2-3 jours, sur une journée, et qui viennent voir des films. Ils savent très bien que ces films-là, pour beaucoup, ne passent pas en salle. Malheureusement, c'est vraiment l'idée d'avoir une programmation un peu inédite, un peu en exclusivité. Et puis, pour d'autres films, ils passeront en salle, mais de façon, ils n'auront pas un temps, on va dire, dédié pour vraiment faire la promotion de ces films-là dans les salles de cinéma en France.
La coordinatrice du festival arabe de Famec, Majouba Galfout. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce soir à 23h est Mabrouk Rachedi pour « Tous les mots qu'on ne s'est pas dit », un roman publié aux éditions Grasset, rediffusion de cette émission dimanche à 19h. Cette édition est terminée à midi et 18h ce dimanche. Vous retrouverez François-Xavier de Calonne. Excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.